Alors pour ce matin, j'ai donné comme titre de ce message, quel est le modèle de Dieu pour son Église, hein? On va parler un petit peu de l'Église. Ce sera en deux parties. Je pense que je reviendrai une fois sur ce sujet par la suite ou plus tard. De toute façon, si c'est plus tard, je vous rappellerai le contenu du premier message. Quel est le modèle de Dieu pour son Église? Et dans la première partie, on va plutôt parler du peuple. Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Quelles sont les attentes du Seigneur envers ses enfants? Et pour la seconde partie, se rappeler quels sont les fondements de l'Église. Hein? Se rappeler quels sont les fondements de l'Église, parce que oui, il y a des fondements qui nous sont indiqués dans la parole du Seigneur, et non qu'on serait loin de ces fondements aujourd'hui, hein, je vous rassure. Mais des fois, il est simplement bon de entendre la parole de Dieu. Et c'est vraiment dans cette idée-là, dans cette direction-là qu'il faut aussi recevoir le message de ce matin. Je suis pas en train de dire qu'on est loin du modèle que Dieu veut pour son Église, mais simplement dans le temps que nous vivons aujourd'hui, et nous ici à l'Église de l'Évol, nous ne sommes pas complètement coupés du reste de l'influence des autres Églises. Hein. On est dans une culture de société déjà, et on est dans une culture d'Église aussi. On a des connaissances qui vont dans d'autres communautés, qui vont nous parler de leur expérience et tout. Et puis, voilà, ça peut des fois aussi nous influencer. Et c'est pourquoi il est bien de revenir à la parole de Dieu, qu'on ait une pensée claire aussi de ce que le Seigneur attend de ses enfants et de son peuple. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, le message de ce matin, il ne s'adresse pas à une personne en particulier dans notre Église, hein, que ce soit clair. Mais simplement, ça nous rappelle la structure que Dieu demande à son assemblée, la direction que Dieu demande à son assemblée, et je suis convaincu que nous allons dans cette direction aujourd'hui au niveau de notre Église et chacun d'entre nous, mais il est bon de se rappeler ceci pour affermir aussi notre foi et notre pensée dans le Seigneur. Amen. Alors, parce que vous verrez, on va prendre des textes hein, qui sont un petit peu durs, entre guillemets, mais vous les avez déjà entendus. Alors, le premier se trouve dans Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 6. Jérémie 6, les versets 14 à 16. Jérémie 6. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Hein, ce texte s'adresse à Israël, juste avant la prise de Jérusalem, et c'était un temps où... heureux ceux qui gardent ces préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur, hein. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Hein, voilà, c'est ce qui est écrit ici, si jamais, au travers du bimeur. Hein, merci mon frère, qui me pointe du doigt. En effet, c'est un peu la pensée du message de ce matin. Hein, c'est bien ça. Ce texte s'adresse à Israël qui était en grande partie, bien sûr pas tous, hein, mais en grande partie, le peuple était dans la rébellion et le jugement allait venir. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une pensée pour l'Église en général, hein, je ne dis pas pour nous en particulier, mais pour l'Église en général. Ils pensent à la légère, le verset 14, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Alors, pensez à la légère, une plaie peut avoir un effet catastrophique sur le corps humain. En effet, hein, si la plaie va s'infecter, ou même si l'hémorragie va continuer, à brève échéance, cela peut conduire, selon l'ampleur de la perte de sang, au décès de la personne. Mais on n'est pas ce matin ici réunis pour suivre un cours de premier secours. Ces versets Et ces avertissements s'adressent aux enfants du Seigneur. Qu'est-ce donc qu'une église qui pense à la légère la plaie de la fille du peuple de Dieu? C'est une église qui, par exemple, prêcherait que sur les thèmes de la grâce de Dieu, de l'abondance de Dieu, des bénédictions divines, et qui mettrait de côté les enseignements exigeant du croyant une repentance en cas de péché, qui mettrait de côté la recherche de la sanctification et le désir de soumettre sa vie à la volonté divine. Une église qui pense à la légère la plaie de la fille du peuple de Dieu, c'est une église qui laisse croire aux chrétiens qu'ils peuvent conduire leur vie selon leurs propres désirs, selon leurs propres pensées, sans se soumettre à la volonté du Seigneur. Ce chrétien, quelque part, durant la semaine, mène la vie qui lui plaît, et le dimanche, il vient au temple afin de recevoir sa part de bénédiction céleste. Ces chrétiens peuvent être en rébellion contre Dieu, car ils suivent les penchants de leurs propres désirs et ne se soumettent plus au Seigneur, ils ne soumettent plus leur existence à Dieu. Mais cela ne les empêche pas de venir le dimanche au culte, voire même peut-être d'y être impliqués. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant, les chrétiens du dimanche. Hein. Un chrétien du dimanche, il vient le dimanche au culte, il vient recevoir sa petite pluie de bénédiction, et il repart, et tout le reste de la semaine, il vit sa vie selon ses propres pensées, selon ses propres projets, il s'inquiète plus du Seigneur, et il revient le dimanche parce qu'il se dit, le dimanche quand même, je veux ma petite bénédiction, autrement, mon dimanche le matin, il est un peu terne, quoi. Alors autant aller à l'église, et puis recevoir ma petite bénédiction. Leur prière n'est plus que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais que ma volonté soit bénie par toi, Seigneur. Bien sûr qu'ils vont pas prier ainsi dans l'assemblée, hein. Non, c'est des gens qui savent se montrer sous un jour très spirituel. D'ailleurs, parfois ils sont tellement remplis du Saint-Esprit, mais peut-être c'est pas le Saint-Esprit, hein, que tu te sens tout petit à leur côté, que ta prière semble bien minable, hein, par rapport à la leur qui semble décrocher le ciel. Alors que la tienne semble si hésitante, hein, si faible, peut-être tu oses même pas prier dans l'église, hein. Et peut-être même que Jésus a parfois de la peine à entendre tes paroles et il a besoin d'un appareil auditif tellement qu'il doit tendre l'oreille pour comprendre ce que tu es en train de dire, vu que tes mots sont presque inaudibles. Hein, je plaisante, hein, Jésus n'a pas besoin d'appareil auditif. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont enflammés comme ça. Alors tant mieux, hein, si on est enflammé, j'ai rien à la contre. Hein. Et puis on se dit, ouh là là, mais quel chrétien celui-ci, quelle ferveur, hein, quelle prière, quelle puissance, quelle onction. Et puis à côté, tu as une personne qui prie tout simplement, mais tout fragilement, et peut-être c'est la prière, cette sainte prière qui va toucher ton cœur, et non celle qui est complètement exaltée. Alors moi, j'ai rien contre des prières qui sont faites avec ferveur, mais vous comprenez un peu, je pense, le fond de ma pensée. Alors ces chrétiens du dimanche semblent tellement bénis. Ils semblent avoir une vie remplie, leur agenda est overbooké. Ils ont même dû fixer rendez-vous, compte, hein, des rendez-vous après le retour du Seigneur. Hein, parce que leur agenda est déjà plein. Hein, et donc, même après le retour du Seigneur, ils ont fixé des rendez-vous parce que tellement ils sont demandés. Ils doivent parcourir la terre du nord à l'est, au sud, à l'ouest. Hein, ils sont appelés partout parce que c'est vraiment des gens qui, leur coupe est tellement débordante. Hein, que voilà, et c'est des personnes qui sont importantes, qui sont admirées, mais peut-être que c'est simplement des chrétiens du dimanche. Attention, car si sur le plan spirituel, tout semble tomber bien cuit dans leur assiette, c'est qu'ils sont peut-être en train de tourner en rond dans leur désert. Comme le peuple de Dieu qui recevait les cailles dans le désert après leur sortie d'Égypte. Car n'oublions pas que quand le peuple de Dieu a reçu ainsi les cailles dans le désert, c'était qu'en réalité, il était en train de tourner en rond. Hein? Si tous les jours, à midi, tu reçois un poulet bien cuit dans ton assiette, c'est peut-être pas signe d'une bénédiction. Hein? Le poulet qui arrive là, paf, dans ton assiette, bien cuit, c'est peut-être pas forcément le signe d'une grande faveur de l'Éternel. Des fois, sur le plan spirituel, si tout semble aller tellement bien, hein, si tout semble, le Seigneur répond à chacune de nos prières, et puis tout semble s'ouvrir devant nous, il n'y a plus aucune difficulté, il n'y a plus aucune perturbation, il n'y a plus aucune maladie, il n'y a plus aucune souffrance, il n'y a plus aucune persécution. Peut-être c'est pas signe que vraiment le Seigneur est avec toi. C'est que peut-être tu es en train de tourner en rond dans ton désert. Hein? C'est pas forcément la façon dont on pense. Mais on peut s'imaginer aussi au niveau de nos vies par rapport à la sanctification. La sanctification, c'est un combat et on aura l'occasion d'y revenir. Et on doit persévérer dans la prière. Amen. Si la sanctification, tu la vis comme ça, tranquille, facile, hein, ton oubli de lire ta Bible, ton oubli de prier, ton oubli de chanter ton Dieu, ton oubli de jeûner, petit coup de pub, hein, on va bientôt jeûner dans notre église, ben, est-ce que vraiment tu es sur le chemin de la sanctification pour le Seigneur? Parce que je crois que ça coûte que d'être un enfant de Dieu, que de marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que j'ai aussi bien aimé la prédication du pasteur Charles Bond en début d'année, qui était sur le thème de la persévérance. Or, Abraham persévéra. Hein? Et c'est vrai, nous aussi, nous devons persévérer. Persévérer sur le chemin étroit, persévérer dans l'enseignement du Seigneur, persévérer dans ses préceptes, persévérer dans cette recherche, comme il est écrit là, hein, de tout notre cœur, de notre Dieu, persévérer dans ce désir de ne commettre point d'iniquité, de marcher dans toutes ses voies. C'est pas simple. Charles Gmonda disait, hein, sans la persévérance, la Bible ne s'accomplit pas dans nos vies. C'est pas possible. Un disciple du Seigneur, un enfant de Dieu, est appelé à persévérer. Donc, ces chrétiens du dimanche, eux, au contraire, sont tellement bénis, tout semble tellement bien aller. D'ailleurs, ils ont les 10 clés qui solutionnent tous tes problèmes de ton existence. Ils en ont fait un super bouquin qui marche bien, c'est un best-seller. Hein. Vous connaissez un peu ces marchands du temple, quelque part, des fois. Pardon, Seigneur, Dieu, tu connais leur motivation. Je juge aucun écrivain en disant ça. Je pointe du doigt en direction d'aucun auteur de livre. Mais des fois, ça semble tellement simple à les écouter. Peut-être que ce matin, le prophète Jérémie leur déclare « Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. » Et une église qui pense à la légère la plaie de la fille du peuple de Dieu, ça peut même être une église qui accepte la rébellion en son sein. Hein, ça peut paraître étonnant. Et puis peut-être même parfois qui en font presque une marque de fabrique. Mais c'est quoi un chrétien qui est dans la rébellion? On n'entend pas souvent un message là-dessus. Hein? C'est quoi un chrétien qui est dans la rébellion? Et on va regarder quelques passages bibliques. Une fois encore, hein, je suis pas en train de pointer du doigt envers aucun d'entre vous, mais réalisons quand même que nous sommes dans un temps quand même de compromis. Je parle de manière générale, hein, au niveau de l'Église, un temps de tiédeur, un temps où le péché n'est presque plus un péché. Hein. Les gens, des fois, quand on voit la vie que certains chrétiens mènent, c'est pas vraiment une vie consacrée au Seigneur. Alors Dieu, comme on l'a entendu ce matin par la lecture du psaume, merci Seigneur hein, que tu n'agis pas selon nos péchés. Je suis pas en train de dire qu'on est parfait, que jamais on trébuche, que jamais on fait une erreur, que jamais on a une pensée mauvaise, que jamais on entre dans un mauvais projet. Non, on est pécheur. Mais Dieu, ce que le Seigneur regarde, c'est notre attitude de cœur. Quelle est notre attitude de cœur? Est-ce que vraiment Jésus, tout simplement, a la première place en nous? Est-ce que c'est notre désir là? Et voilà, on est comme des enfants, des erreurs, on en fera encore. Mais Dieu, dans sa grâce, nous pardonne. Et il regarde la motivation de nos cœurs. Comme David, Dieu s'était choisi un homme selon son cœur. Est-ce que David n'a pas fait d'erreur? Oui, il en a fait. Mais David, il passait par la repentance s'il faisait des erreurs. Il demandait pardon. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, l'a laissé à son statut de roi. Et les deux textes que nous allons lire ce matin dans l'Ancien Testament nous parlent justement d'un roi. Et ce roi s'appelle Saül. Et lui, ben, malheureusement, on voit qu'il est tombé dans la rébellion et on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, le premier texte se trouve dans 1 Samuel 13, à partir du verset 5. 1 Samuel 13, verset 5. Et c'est la première bataille que doit livrer Saül. Et ben, cette première bataille se passe déjà mal, vous allez voir. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sorta au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Donc, c'est la première bataille que doit vivre le roi, et on va voir, son fonctionnement est loin d'être idéal. Samuel dira, « Tu as agi en insensé » au verset 13. « Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Saül devait attendre 7 jours, selon le terme fixé. Et il n'a pas attendu ces 7 jours, hein. Et il va même dire à Samuel, hein, ben le temps fixé était passé. Ben non, c'était pas vrai. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui mentait. Hein, il tire les choses à son avantage, il était dans le mensonge. Le terme n'était pas passé. La persévérance, l'importance de la persévérance. Hein. Or, Abraham persévéra. Hein. Et sans la persévérance, nous ne pourrons pas vivre les promesses de la Bible. Un chrétien doit apprendre à être persévérant, même dans les difficultés. Et là, la situation sur un plan humain, soyons clairs, pour ce roi, mais c'était catastrophique. Première bataille que tu dois livrer, peut-être tu dis, bah, je vais faire une petite bataille au début pour que ce soit tranquille, quoi. Ah non, non, hein, c'est tout de suite la monstre guerre. Il y a ici les Philistins avec 1000 chars, 6000 cavaliers, et une troupe aussi nombreuse que le sable sur le bord de la mer. Et puis qu'avait en face le roi Saül? 3 000 hommes, hein? On le voit au verset 2, 3 000 hommes seulement. 3 000 hommes en face de déjà 6 000 cavaliers. Qu'est-ce que vous faites là contre? Vous pouvez pas, vous êtes déjà perdu d'avance, hein? Vous pouvez pas mener une bataille. En plus, il y a les chars, il y a 1000 chars. Hein, ça veut dire qu'il y a, il y a un char pour 3 soldats en face, il y a 2 fois plus de cavaliers, et puis il y a toutes les troupes armées. Et la situation, honnêtement, sur un plan humain, pour Saül était devait uniquement tourner à la catastrophe. Si on regarde les chiffres, il y avait plus que 600 hommes qui étaient autour de Saül. Donc au départ, il y en avait 3000, il en reste plus que 600. Ils sont tout tremblants, là, comme un peu des poules mouillées, face à un ennemi. Tous les autres ont fui, ils ont été cachés dans des tours, dans des citernes, les autres derrière des buissons, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Allez, un petit arbre, je me cache derrière. Il y avait de quoi avoir peur. Alors moi, je dis pas que j'aurais peut-être pas fait le contraire. La situation était vraiment critique. Mais plus critique que ça, vous pouvez imaginer. Oui, c'était plus critique que ça. Verset 22, on peut lire, 1 Samuel 13, 22. « Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Philistins avaient interdit aux Israéliens d'avoir des forgerons sur leur territoire. Donc, ils étaient incapables de se forger des armes. Qu'est-ce que vous faites avec des soldats ? Il n'y en a plus que 600 qui sont tout tremblants là, autour du roi, qui attendent depuis 7 jours, qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y en a pas un qui est armé. Et puis en face, vous voyez la troupe, je vous l'ai décrite. Vous faites quoi ? C'est pas simple, hein ? En fait, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est faire confiance dans le Seigneur. C'est prier, c'est chercher la direction de Dieu. Et là, malheureusement, Saül n'a pas eu ce réflexe. Il a marché selon sa propre intelligence, il a cherché à recevoir la bénédiction de Dieu, comme par enchantement, il a fait lui-même le sacrifice. Il a fait un peu comme ces chrétiens du dimanche, qui viennent là chercher la bénédiction, mais qui ne cherchent pas la direction du Seigneur pour leur existence, qui ne cherchent pas à conformer leur vie à la parole du Seigneur. Et si je dis ces choses-là, c'est qu'il y en a aujourd'hui, malheureusement, sur cette terre, des chrétiens qui vivent comme ça. Le roi a agi en insensé, parce qu'il n'a pas prié quelque part, il n'a pas cherché la face de Dieu. Mais ce texte nous encourage. Pourquoi ? Parce que si toi-même tu es dans une situation impossible, si toi-même sur un plan humain tu te retrouves comme ce roi, avec des difficultés en face de toi, avec des montagnes complètement infranchissables, avec un chemin qui te semble complètement bloqué, alors je te donne un conseil. Prie, cherche la face de ton Dieu, jeûne, et le Seigneur va intervenir. Il n'y a pas une circonstance où Dieu est pris à dépourvu. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était pour le Seigneur qu'une troupe de 6000 cavaliers avec 1000 chars et des soldats aussi nombreux que le sable du bord de la mer, Et d'ailleurs, si vous lisez la suite, vous verrez qu'ils vont être battus. Miraculeusement, ils vont être battus, au travers de Jonathan et de celui qui porte ses armes. Il va faire une brèche et ensuite, ça va être la déroute parmi les Philistins. Dieu n'est pas pris au dépourvu des circonstances difficiles que nous traversons. Amen. Cherchons sa face, même si ça semble sans solution, mais ne venons pas simplement chercher une bénédiction et repartir par notre propre chemin et aller par notre propre intelligence. Croyons que Dieu va bénir chacun de nos choix. Alors, oui, des fois dans la vie, on va faire des choix par nous-mêmes. Le Seigneur nous a donné quand même un cerveau pour l'utiliser et puis pour avoir un comportement raisonnable. Mais des choix importants, on doit les placer devant le Seigneur. Un choix important, ça peut être l'endroit où tu vas à l'église. Un choix important, ça peut être dans quelle activité professionnelle tu vas peut-être faire une formation ou quel poste professionnel tu vas prendre. Un choix important peut être celui l'achat d'un bien immobilier ou pour un déménagement, savoir où Dieu t'attend, savoir pour un voyage missionnaire. Est-ce que c'est Dieu qui t'appelle? Est-ce que c'est le moment? Savoir si c'est le Seigneur peut-être qui t'appelle à te former, à prendre un temps pour approfondir ou renouveler ta connaissance des Écritures. Un choix important, c'est celui du couple aussi. Et je me rappelle d'un pasteur qui avait un enseignement quand même un petit peu étonnant par rapport au couple. Il disait, c'est l'homme qui choisit et c'est Dieu qui bénit. Parce que Dieu a donné une fois à un homme une femme, hein, c'est-à-dire Dieu a donné Ève à Adam, et ça n'a pas marché. Et vu que ça n'a pas marché, ben aujourd'hui c'est l'homme qui fait son choix, qui vient devant l'autel et qui demande la bénédiction. Bon, il y a quelqu'un qui rigole, ça me rassure. Ben honnêtement, son mariage, ça n'a pas du tout fonctionné à ce pasteur. Aujourd'hui, il n'est plus pasteur. Et c'est une pensée humaine, ça c'est pas une pensée du Seigneur. Il est important, si on veut se marier, de chercher la face du Seigneur et demander vraiment la direction, si on a le feu vert pour un tel engagement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Ben aujourd'hui c'est triste, il a disparu dans la nature, il a abandonné femme et enfant, hein, en ayant aussi... endetté son épouse, il a disparu dans la nature, il s'est donné une nouvelle identité, certainement. Hein. Aujourd'hui, c'est possible. Hein. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir des faux papiers. Hein. C'est possible, ça se paye. Vous disparaissez dans la nature, toutes vos dettes, entre guillemets, sont effacées. Vous abandonnez vos enfants il a trois enfants entre 25 et 18 ans. Hein. Vous vivez 30 ans avec quelqu'un et vous tournez la page comme ça, du jour au lendemain, alors que vous étiez pasteur. Est-ce que Dieu bénit le choix des hommes? Moi, je crois que c'était vraiment pas une bonne théologie par rapport au couple. Hein. Sur d'autres choix, peut-être moins importants, oui, Dieu va bénir. Parce qu'on est ses enfants et puis il prend plaisir quand on prend des initiatives et des responsabilités à la gloire de son nom. Il y a un proverbe qui dit ceci, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Hein? C'est à nous de méditer la voie, le choix qu'on va prendre. On doit y réfléchir, on doit se placer devant Dieu. Mais c'est l'Éternel qui dirige nos pas. Combien de fois le Seigneur, peut-être dans sa grâce, nous a rappelé peut-être que « Ah, mais attends là. » Attends, Alexandre, là, tu vas pas dans la bonne direction. T'aimerais faire quelque chose pour moi, mais regarde, moi je vois autrement. Je vois pas les choses comme toi. Je te montre un autre chemin. Puis ça veut pas dire que Dieu va pas nous bénir, hein, au contraire. Des fois, Dieu nous bénit au-delà de tout ce qu'on attend. C'est pas seulement une vie de sacrifice, de frustration ou que sais-je. Non, Dieu prend plaisir à bénir ses enfants. Mais c'est une question d'attitude de cœur. Est-ce que nous plaçons le Seigneur Jésus-Christ en premier dans nos vies? On va lire un deuxième texte sur la rébellion, en 1 Samuel 15. Et c'est une bataille qu'a dû mener de nouveau Saül, et là, ça s'est mal passé. Samuel 1, 15, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek, et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Égypte. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui est méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on vint lui dire, Saül est à Carmel. Voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'est retourné en passant plus loin. Il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé les paroles de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêtement de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné le meilleur des brebis et le meilleur des bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel lui dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi sur Israël ? L'Éternel t'avait pas fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pêcheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur leur butin ? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens à moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi en Israël. Hein? » Ce passage-là, c'est voilà une seconde bataille que doit livrer le roi Saül, et il doit le livrer, c'est assez dur, hein, contre les Amalécites, et il doit épargner personne, ni les bêtes, ni même les nourrissons. Tout le monde doit être passé au fil de l'épée. Et c'est un commandement de Dieu. Hein. À un moment donné, quand un péché arrive à un tel niveau dans un peuple, Dieu le juge, et Dieu détruit tout le monde. Tant le péché est devenu grand, parce que même s'il reste des petits-enfants, la génération, quand elle va grandir, elle va reproduire les mêmes péchés que les parents. À un moment donné, le jugement de Dieu tombait sur un peuple, à l'époque de l'Ancien Testament, mais on ne va pas lire ce passage, hein. On peut voir par exemple en Deutéronome 13, les versets 12 à 18, qu'un tel jugement pouvait tomber aussi en Israël, si dans une ville, les gens se détournaient de Dieu. Hein, si des gens se détournaient de Dieu, entraient dans l'idolâtrie, et puis entraînaient toute la ville à leur suite, alors la ville elle-même pouvait aussi, alors qu'elle était en Israël, hein, elle pouvait être dévouée par interdit, et les gens, tous les gens étaient passés, et le bétail était brûlé, tout le monde était détruit dans la ville. Donc c'est un jugement de la part du Seigneur, et Saül, il entre dans le compromis par rapport à ce jugement. Pourtant, cette fois, il a une armée puissante, hein. Il a des centaines de milliers d'hommes à sa suite. Il a même 10 000 hommes de Juda qui étaient certainement une troupe d'élite. Donc, il était facile pour lui de vaincre ces Amalécites sur le plan guerrier, comptable. C'était une évidence qu'ils allaient remporter une grande victoire. Mais le roi entre dans le compromis. Il laisse la vie sauf au roi des Amalécites. Et puis, il garde le meilleur des brebis, soi-disant parce que le peuple aurait fait pression. On peut s'imaginer que si le roi fait ça, c'est plutôt pour recevoir l'admiration du peuple, hein, puis se dire « Ah, mais quel bon roi, il nous laisse des choses pour nous. On n'est pas venu se battre pour rien. On a un trésor avec nous maintenant. C'est super. Hein. » Et puis, soi-disant que c'était pour offrir un sacrifice, mais ça, c'était une belle excuse. Hein. C'était une spiritualité à la légère. Hein. Selon les circonstances, la parole du roi, elle bougeait. Hein. Elle était une fois à droite, une fois à gauche, une fois en bas, une fois en haut. Mais le jugement du Seigneur est tombé sur ce roi. Le jugement, à un moment donné, peut tomber. Et là, le jugement est tombé sur ce roi. Et même, quand bien même, ça a pris des années et des années et des années avant que ce roi soit véritablement destitué de sa fonction, hein, ben voilà, le jugement était déjà là. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint s'est retiré du roi et c'est un esprit religieux qui a été autorisé à venir tourmenter le roi Saül, qui a pris possession de cet homme. Et parfois, il peut être la même chose aujourd'hui. Des chrétiens, à force d'être dans la rébellion, c'est plus l'Esprit Saint qui va conduire ces gens-là, mais ce sera un esprit religieux. Hein. Et c'est pas parce que on croit en Dieu que voilà, on sera toujours à l'abri. On peut une fois se faire séduire ou l'autre par un esprit religieux, hein, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Ça peut arriver à chacun d'entre nous de prendre une fausse route. Ça peut arriver à chacun d'entre nous de commettre un péché. Mais simplement, c'est une question de repentance. Et là, on voit que, en fait, la rébellion est aussi coupable que la divination. Hein. La rébellion, à un moment donné, ça ouvre les portes à des esprits mauvais, comme la divination, ça ouvre des portes à des esprits mauvais. La rébellion, quelqu'un qui ne veut pas se repentir de son péché, qui ne veut pas accepter la volonté de Dieu pour sa vie, qui marche selon son propre désir, selon ses propres pensées, qui n'écoute jamais aucun conseil de son frère et de sa sœur, qui n'est qu'un chrétien du dimanche, il risque de ce que sa vie s'ouvre à des esprits des ténèbres. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Jérémie 6, et je vais finir là-dessus gentiment, verset 16, nous disait « Demandons-nous plutôt avec humilité, hein, je reformule un petit peu, quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, quelle est la bonne voie à suivre ?» Amen. Demandez quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Et c'est ici un signe qui ne trompe pas. Quand nous sommes sur le chemin du Seigneur, alors la paix de Dieu nous accompagne. Amen. La paix du Seigneur est là, nos âmes sont dans la tranquillité parce que nous sommes sous la protection de notre berger. Il est là à nos côtés, il nous guide et il prend soin de ses enfants. Matthieu 7 disait ceci au verset 21, « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, entrera dans le royaume. » Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Chercher la volonté de Dieu, c'est pas une option dans la vie d'un chrétien. Et ça doit pas être un poids, hein. Ça, c'est vrai que le texte, le partage que je vous ai fait, il est un petit peu secouant comme ça par rapport à la volonté divine. Mais malheureusement, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont dans la rébellion. Et si je vous partage ça, c'est parce que nous, on veut pas entrer dans ce chemin-là. Que le Seigneur nous garde à le suivre simplement avec humilité, le servir dans la joie et nous réjouir pour les projets qu'il a pour nous parce que Dieu a destiné des bonnes choses encore envers chacun d'entre nous et que son nom soit béni pour cela. Parce que connaître la volonté du Père pour nos vies, c'est quelque chose qui nous libère, c'est quelque chose qui nous affranchit, c'est quelque chose qui permet à ce que l'homme puisse être vraiment accompli dans ses activités. Amen. C'est passionnant de chercher la volonté du Père. Amen. Hein? Mais malheureusement, il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont dans la rébellion et qui ont abandonné ce premier amour et qui ont mis de côté la purification de leurs péchés. Toutes ces choses-là, déjà les apôtres du Nouveau Testament les dénonçaient et ne cessaient d'exhorter l'Église à chercher le Seigneur et à marcher dans la sanctification. Ne marchons pas sur cette terre au gré de nos propres pensées, de nos propres projets, mais soumettons nos vies à Dieu. Car la parole déclare que nous sommes esclaves du Christ que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et que nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons pu passer. Merci parce que, oui, nous ne sommes pas dans la rébellion, Seigneur, mais nous voulons nous préserver de ce chemin. Et nous voulons penser aussi à ce pasteur qui a trébuché, que tu puisses le pardonner, Seigneur, qu'il puisse revenir à son bon sens, qu'il puisse retrouver ton chemin et que tu puisses parler à son cœur. Et Seigneur, nous te remettons les personnes que nous connaissons, qui nous sont peut-être proches pour certaines, que nous savons dans la rébellion. Que tu puisses nous donner, peut-être le jour où nous croiserons leur chemin, ta parole, Seigneur, une parole de paix, une parole d'amour, une parole qui vient de toi, Seigneur, que tu puisses rouvrir leurs yeux et qu'ils puissent voir peut-être sur quel chemin ils sont en train de marcher. Jésus, merci. Merci parce que tu es là, tu marches devant nous et nous voulons humblement continuer à te suivre et continuer à t'adorer. Merci pour ce grand sacrifice que tu as manifesté envers chacun d'entre nous. Merci parce que tu vas être avec nous dans nos combats et que même si parfois le chemin de la sanctification n'est pas simple, Seigneur, tu nous donneras encore la victoire et tu nous affranchiras encore et tu fortifieras notre foi. Et même pour les gens qui traversent des temps d'épreuves aujourd'hui, Seigneur, nous savons que tu es avec eux et que tu les béniras, que tu les purifieras encore, que tu les fortifieras, que tu renouvelleras, Seigneur, cette paix abondante que toi seul peux donner. Amen.